I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Mathilde.
Bonjour. Salut.
Merci.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je viens vous voir aujourd'hui parce que...
Bien, aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon fils, qui a une façon de fonctionner un petit peu particulière.
Comment ça se passe pour vous?
Eh ben, comme pour tout le monde, c'est compliqué.
Pire que compliqué.
Je me pose un peu des questions sur la façon d'éduquer ma fille.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
Le deuil, on pense que c'est d'abord de la peine. Ben non. Le deuil, c'est d'abord de l'épuisement physique et psychique.
Dans la première partie de ce nouvel épisode de parentalité dédié à la perte d'un enfant, je reçois Christophe Fauré. Ensemble, nous avons décidé de ne pas inviter de parents à venir témoigner, comme habituellement dans le podcast, le témoignage ravivant bien souvent la perte et la douleur. Bonjour Christophe Fauré.
Bonjour Mathilde.
Vous êtes psychiatre et psychothérapeute depuis plus de 25 ans, spécialiste du deuil et des périodes de transition de vie. Vous exercez actuellement en libéral à Paris. Vous êtes l'auteur aussi de nombreux ouvrages, alors on va en citer que quelques-uns.
Chez Albin Michel, tous, ouais.
Vivre le deuil au jour le jour, Mourir n'est pas te perdre.
Ça, c'est un roman, ça.
Oui.
C'est mon seul et unique roman, oui.
Après le suicide d'un proche, Accompagner un proche en fin de vie, et votre dernier qui est Cette vie et au-delà, une enquête sur la continuité de la conscience après la mort. Une grande majorité des parents que j'accompagne ont perdu un enfant à l'aube de la vie ou dans les tout premiers moments de vie. On parle alors de deuil périnatal. D'autres parents sont confrontés à cette terrible épreuve plus tard. Les raisons de la perte peuvent être multiples, maladie, accident, suicide. Qu'est-ce que le deuil et quelles sont ses particularités quand il s'agit de la perte d'un enfant? Quel est le processus de deuil, ses étapes? Ce sont les questions que nous allons aborder ensemble dans ce premier épisode, Christophe. Pour commencer, Christophe, selon vous, quelle est la place de la mort dans notre société et est-ce que cette place aide ou, à l'inverse, met en difficulté les personnes en deuil?
Il y a quelques décennies encore, on disait que la mort est tabou, on n'en parle pas et tout. Ça change tout doucement. Hein. On commence à en parler. La preuve, nous sommes en train de faire un podcast avec une grande audience parce que les gens ont compris que nier la mort, ne pas en parler, rajouter la souffrance à la souffrance de la perte. Donc, il était inutile de mettre à distance cette réalité de l'existence. Donc, ça change tout doucement. Il y a de plus en plus d'émissions, de films, de séries qui parlent véritablement du deuil des parents. Et c'est extrêmement utile parce que ça donne des points de repère aussi aux personnes. Dans les siècles passés, il y avait des points de repère sociaux qui étaient là dans un village quand il y avait une personne qui décédait. Les gens du village pouvaient venir assister aux événements, prendre part aux obsèques. Donc il y avait une espèce de sagesse ancestrale qui se transmettait de personne en personne. Et là, beaucoup de gens maintenant meurent à l'hôpital et c'est très aseptisé. Mais progressivement, grâce notamment au mouvement des soins palliatifs qui a réintroduit la mort, le deuil dans une normalité d'une existence humaine, eh bien, les choses bougent tout doucement. Et je suis assez confiant qu'au fil du temps, ça va devenir toujours tabou parce que c'est tabou dans le sens que on n'ose pas en parler, on n'a pas envie d'en parler parce que c'est par essence, intrinsèquement, référence à des choses douloureuses, des choses de peine, de perte. Mais comme c'est une réalité de l'existence, il est beaucoup plus sain de confronter le réel plutôt que d'essayer de le nier.
Du coup, qu'est-ce que c'est que le deuil?
Ah oh là là, mon Dieu.
Vaste question.
Grande question. On va prendre une image, parce que les images sont parfois plus explicites que les mots. Imaginez que vous avez un accident avec une énorme blessure sur le bras, très profonde, très douloureuse, très importante. Eh bien, il y a automatiquement en nous une intelligence intrinsèque à notre être qui va savoir quoi faire exactement pour initier le processus de cicatrisation de cette plaie. Donc si on fait immédiatement le parallèle avec le deuil, quand il y a cette brèche énorme, cette blessure énorme de la perte de son petit, puisqu'on parle d'un enfant, il y a véritablement automatiquement, sans force de la volonté, sans décision de notre part, la mise en route de cette même dynamique de cicatrisation psychique. Donc le premier point important à retenir, c'est que le deuil, c'est un processus naturel, complètement naturel, qui œuvre à restaurer ou à préserver l'intégrité de notre être, tout comme la cicatrisation physique aide à préserver l'intégrité physique, sinon on a des maladies, on a des affections, etc. De même que le processus de deuil, ça aide à préserver cette intégrité psychique. Il y aura toujours une cicatrice, on verra toujours, donc le deuil n'est pas effacé, n'est pas passé à autre chose. Il y aura toujours la cicatrice, mais il aide à pacifier ce qui est effroyablement douloureux. C'est ce processus intelligent qui va progressivement prendre soin de la blessure de la perte. Et donc, on est bien clair, ce qui est douloureux dans tout cela, c'est la mort de mon petit. C'est pas le processus de deuil. Le processus de deuil, au contraire, c'est le doux médecin, la douce infirmière qui va progressivement prendre soin de cette plaie. Alors, la cicatrisation va être longue et on dit « Ah, j'aime pas le deuil, je veux pas le deuil », c'est tourner la page. Enfin, plein d'idées complètement fausses sur ce qu'est le deuil, alors que c'est la chose la plus bénéfique qui est là. Et le point aussi important, c'est que c'est donc inconscient. Hein, on ne décide pas de faire ou pas faire son deuil. Cette expression est stupide puisqu'on ne fait pas son deuil, on traverse ce deuil. C'est véritablement un processus qui est là au-delà de notre volonté, notre force de caractère.
Et qui a lieu quoi qu'il arrive.
Là où on veut intervenir, c'est que notre conscient, notre petit moi, pense de façon tellement pathétique et tellement dérisoire qu'il a le contrôle du processus. Et on lui dit, je veux bloquer mon processus de deuil, je veux interférer. Ben non, la plupart du temps, ce petit moi qui veut contrôler la situation, situation incontrôlable pour lui, eh bien, il vient souvent mettre le souk dans la situation. C'est exactement la même manière que si on avait un processus de cicatrisation harmonieux qui est en train de se passer et qu'on décide d'écarter à nouveau les berges de la peau qui sont en train de se cicatriser. C'est idiot. Donc, il y a vraiment intrinsèquement un message, dès le début, de s'abandonner en confiance au processus de deuil, même si on le comprend pas, même si c'est chaotique, comprendre qu'il y a quelque chose d'extrêmement sage en nous, d'extrêmement sain en nous, et que même si on n'a pas le début d'une idée de comment on va s'en sortir, il y a quelque chose fondamentalement qui est là. Donc, un espèce d'ancrage de confiance sur ce qu'on est, sur ce qui va se passer au fil du temps.
Et ce processus, est-ce qu'il va être le même pour tous?
Que je sois un aborigène d'Australie ou un Esquimau Inuit, le processus de cicatrisation va être le même, puisque c'est un processus humain. C'est le même. Après, les conditions qui vont, le contexte culturel, le contexte social, le contexte relationnel vont interférer, bien sûr, sur le processus, mais le processus reste le même. Un exemple, une personne en pleine santé qui a un processus de cicatrisation d'une grosse plaie va cicatriser mieux qu'une personne qui est en chimiothérapie avec des baisses des défenses immunitaires et que son système est beaucoup moins à même de pouvoir cicatriser. Mais intrinsèquement, le processus est le même, sauf que là, il y a une condition qui est différente entre bonne santé et pathologie et chimiothérapie qui va interférer avec le processus. Mais contre vents et marées, il œuvre à se passer, il veut se déployer.
Parce que du coup, on entend beaucoup de choses sur la question de la durée aussi du deuil. Oui. Alors, on entend souvent cette idée de un an que le deuil...
Non, mon Dieu, que c'est faux. Mon Dieu, que c'est archi faux. C'est vrai que la durée dépend beaucoup, énormément, à la fois de la relation qu'on a avec la personne qu'on a perdue et aussi des circonstances de son décès. Je suis toujours réticent à donner des durées, mais lorsqu'on parle du décès d'un petit, pour un conjoint, par exemple, on sait que soi-même, intérieurement, on peut se dire, ok, je sais, c'est pas parce qu'on me le dit extérieurement, mais moi je le sais intrinsèquement que je commence à aller vraiment mieux plus de sérénité en moi après deux ans et demi après le décès d'un conjoint. Pour un parent âgé qu'on a accompagné, ça peut être un an et demi. Ce sont que des moyennes, hein, bien évidemment. Mais c'est
mais
vrai
qui
que
peuvent
pour...
être rassurantes de se dire que ça donne une fin.
Oui.
Il y a une perspective d'apaisement.
Il y a un processus. N'oublions jamais que le deuil, c'est pas un état fixe. C'est un processus sans cesse évolutif. Et comme on parle d'un décès d'un enfant, il est clair que l'intégration complète de ce que ça veut dire, l'intégration complète de tous les événements, et là, un apaisement du cœur survient après, là j'espère que je ne vais pas vous faire peur, mais peut-être entre 3, 4, 5, 6 ans, tout dépend des circonstances. Mais j'insiste, ça ne veut pas dire qu'on va être mal, super mal comme on est mal au tout début. Ça veut dire simplement que le processus intérieur va nous brasser pendant tout ce temps-là. Mais ça veut peut-être dire qu'après 2 ans, on va pouvoir reprendre beaucoup de choses harmonieuses de sa vie. Qu'après 1 an et demi, on est peut-être déjà enceinte d'un autre enfant. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a intrinsèquement dans les tréfonds de notre être ce processus intelligent qui continue à œuvrer et à peaufiner ce processus de cicatrisation. Donc ne vous inquiétez pas si je vous dis en termes d'années, mais ça vous donne un repère. Mais surtout, ne soyez pas affolés par le fait de dire « mon Dieu, c'est terriblement long ». Non, on peut être, en sachant de toute façon s'il y a une durée dans le processus, je dirais aigu, mais c'est à tout jamais, hein. Soyons clairs, on perd son petit à tout jamais, même si on a perdu son petit qu'on avait 40 ans, à 80 ans, on y pense encore tous les jours. Le manque est toujours présent, hein. Le manque n'est pas la signature qu'un deuil s'est apaisé, le manque va rester constamment. Il y aura toujours cette pointe douloureuse à Noël, cette pointe douloureuse pour les vacances, pour la fête des pères ou fête des mères, ou tous ces moments un peu charnières qui tapent un peu sur la cicatrice et qui fait mal, mais ça ne veut dire en aucune façon que le processus n'est pas harmonieusement déployé.
Dans ce que vous disiez là, Christophe, c'est que toutes les conditions environnementales, sociales, intrinsèques aussi à la personne en deuil vont venir avoir un impact sur le déroulement du processus. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut agir justement sur tout ce qu'il y a autour pour favoriser ou soutenir ce processus?
Voilà, mais je prends toujours la métaphore de la plaie. Bien évidemment, ce qu'on appelle le travail de deuil, c'est vraiment la décision consciente qu'on prend pour accompagner le processus de cicatrisation, c'est-à-dire nettoyer la plaie, la couvrir, désinfecter s'il y a besoin, mettre des stérile strips ou des points de suture s'il y a besoin, donc des décisions conscientes. Donc bien évidemment, on peut véritablement agir en conscience sur comment je vais pouvoir mobiliser le plus possible de ressources intérieures et extérieures pour accompagner intelligemment, doucement, avec grande finesse, ce processus de deuil.
Pourquoi, tout d'abord, il est important de connaître ce processus, et ensuite vous allez nous parler de ces étapes.
Des étapes, c'est important à connaître parce qu'on n'en connaît rien. Mm-hmm. Ou Mathilde, à part dans nos cours de psychologie ou psychiatrie, on a appris le processus de deuil. On a perdu cette connaissance intrinsèque, donc c'est déjà l'ignorance du processus qui génère en soi une souffrance, parce qu'on est complètement perdu, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre et on est assez inquiet en disant « mais mon Dieu, ça va durer toute ma vie maintenant, toute ma vie je vais être dans cette souffrance, c'est insupportable ». Donc connaître, savoir que c'est un processus, connaître les différentes étapes, c'est complètement précieux, comme si on avait une carte du territoire. Ok, il va y avoir des passages difficiles, des cols à monter, mais on voit le chemin. Ah ok, c'est pas complètement anarchique, c'est pas complètement sauvage. Il y a des étapes prévisibles. Ce que je ressens, en fait, est normal. C'est ça. Connaître le processus de deuil, les étapes, c'est vraiment se rassurer fondamentalement sur ce que je vis est normal, même si c'est en porte-à-faux complet avec ce que vit mon entourage, qui n'est pas dans situation de deuil.
Oui, d'où l'importance quand on le vit, mais aussi pour l'entourage, de connaître ce processus.
Exactement, de connaître. Et donc, souvent, je dis aux personnes en deuil, enseignez vos proches. Dites-leur ce dont vous avez besoin. Parlez-leur du processus, parce que eux ont des idées, comme on évoquait tout à l'heure, bah après 1 an ça va mieux, mais non, bah après 1 an ça va vraiment, vraiment, vraiment pas mieux, c'est même presque pire qu'au début. Donc il y a véritablement, bah dans la dernière version de mon livre La vie de le deuil au jour le jour, je fais une lettre ouverte que les personnes en deuil peuvent confier à leurs proches en disant bah, je vais t'expliquer un petit peu ce que je vis, parce que là vraiment ton aide c'est complètement à côté de la plaque, ça correspond pas du tout ni à mes besoins ni à où j'en suis dans mon processus. Donc il y a vraiment une éducation, et les gens se disent mais comment c'est pas possible, il faut en plus que j'enseigne à mes proches ce que je suis en train de vivre. Bah oui, si on veut vraiment être aidé et qu'on voit vraiment que les proches se prennent les pieds dans le tapis, ils savent pas quoi faire, on dit bah écoute, voilà comment tu peux m'aider, voilà comment tu peux comprendre ce que je vis. Et c'est très précieux parce que ça peut créer une espèce de lien d'aide vraiment authentique qui fait du bien.
Alors du coup, quelles sont les étapes de ce processus ?
Étapes, oui. Alors, un petit détail, ouais. Ne mélangez pas les étapes du deuil d'Elisabeth Kübler-Ross. C'est pas la même chose. Juste rapidement, comment elle a construit ses étapes ? Elle a demandé à des personnes qui avaient des cancers de parler à des étudiants pour identifier quelle phase ils traversaient quand ils devaient faire le deuil d'une fonction physique ou le deuil de leur métier ou le deuil d'une place sociale, etc. Et donc, elle a mis ces différentes étapes, choc, déni, sidération, vin, marchandage, etc. Et elle a essayé après, j'ai un total respect pour les travaux de Elisabeth Kübler-Ross, bien sûr. C'est une psychiatre suisse qui a travaillé là-dessus, notamment dans les soins palliatifs. Et elle a essayé d'appliquer ces étapes à la perte d'un proche, au deuil par la perte d'un proche. Alors que ce qu'elle avait identifié, c'est le deuil de quelque chose chez quelqu'un qui est toujours vivant. Et ça colle pas quand on essaie d'appliquer les autres. Et vraiment, parfois on essaie de faire entrer un rond dans un carré en tapant avec un marteau pour que ça rentre, et ça rentre pas. Parce que parfois, il n'y a pas la colère. Parce que parfois, il n'y a pas du tout ce qu'elle appelle la négociation. Parfois, il n'y a pas du tout la dépression telle qu'elle entend. Enfin, il y a plein de choses différentes. Et donc, on le retrouve dans plein d'ouvrages de psychologie. Les étapes du deuil de Kübler-Ross, ça n'est pas le cas. Donc,
Merci de le dire, parce qu'en effet, moi j'entends plein de patients depuis très longtemps qui ne se reconnaissent pas du tout dans ces étapes.
Bah, on ne peut pas se reconnaître parce que ça ne correspond pas au deuil par la perte d'un proche ou d'un enfant en l'occurrence. C'est le cheminement psychique de quelqu'un qui perd quelque chose de sa vie. C'est pas pareil. Alors que là, c'est vraiment son petit qu'on perd. C'est vraiment autre chose. Donc c'est quoi, brièvement, parce que c'est vraiment très très long à développer. J'ai mis tout un bouquin là-dessus. Donc quatre étapes. Hein. Quatre étapes et qui sont assez... C'est vraiment une chronologie. Hein. Rarement on passe d'une étape à une autre. C'est vraiment une ligne du temps qui avance. Et j'insiste, ce que je vais vous décrire, c'est le processus inconscient. Hein. On n'a pas le contrôle dessus. Et heureusement qu'on n'a pas le contrôle dessus. Parce que sinon, on interférerait avec quelque chose de très intelligent. La première étape, c'est une espèce de sidération, de choc sur mon petit décédé. Même si on le sait qu'on l'accompagne depuis peut-être des mois ou des années à cause d'une maladie tumorale, par exemple, ou alors si c'est brutalement quelque chose de brutal ou un suicide, il y a toujours ce choc, ces sidérations, et il se produit une espèce de dissociation naturelle. Hein, une dissociation, je dirais, physiologique, où on est un petit peu décalé par rapport à sa réalité. Et c'est pour ça qu'on fonctionne de façon un petit peu automatique, un petit peu souvent très efficace, avec l'impression de rien ressentir comme si c'était figé à l'intérieur. Et on organise avec grande efficacité les obsèques, on appelle les proches. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Parfois même aux obsèques, on n'a pas les yeux, on a les yeux secs en disant, mais c'est pas possible, j'ai un cœur de pierre, qu'est-ce qui m'arrive? Non, c'est une protection. Cette dissociation par rapport à la pleine réalité de ce qui se passe est une protection psychique pour éviter d'être totalement consumé en une fois par la pleine réalité de cette perte. On le sait dans sa tête, mais après, au fil des mois et des années, ça va diffuser par capillarité en soi jusqu'à ce que tout en soi soit, je dirais, entre guillemets, au courant de cette perte. Alors qu'au début, c'est que dans la tête, alors que tout en soi ne sait même pas qu'on a perdu son petit. C'est donc un lent processus.
Donc d'où l'importance de ne pas aller contre cette dissociation
de pas se porter un jugement sur soi en disant je suis monstrueux ou je suis monstrueuse parce que je pleure pas, puis je vais bien là. Le premier temps, dire c'est ok, j'ai perdu mon petit, mais c'est fou, c'est j'y crois pas. Oui, le côté incroyable, hein, premièrement, qu'on ne peut pas croire. Alors, ça peut durer quelques semaines, hein, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Et c'est vrai que les obsèques sont un temps social, ritualisé, qui permet vraiment de commencer à rentrer dans la réalité de cette perte. C'est pour ça que c'était compliqué, comme avant, il y a des décennies, et qu'il y avait une interruption de grossesse médicalisée, et que l'enfant n'était pas du tout vu par les parents, et qui partait directement pour l'incinération à l'hôpital. C'était épouvantable. Il n'y avait rien, aucun rituel, aucun nom et tout. Et l'importance dans le deuil périnatal aussi de mettre le nom, de faire une cérémonie. Et parfois même quand le corps n'a pas été retrouvé dans des accidents de train ou d'avion, de toujours la place du rituel. Hein. Ça, c'est valable dans tous les deuils. Cette deuxième étape, après, survient juste après. C'est une phase de recherche. Hein, et beaucoup je parle de fuite-recherche. Fuite parce qu'on est très speed. On pourra peut-être parler plus tard de la dimension biologique du deuil, mais pendant cette période-là qui va durer 6, 8, 10 mois. D'accord ? On parle de la deuxième étape et on est déjà presque à 6, 8, 10 mois. C'est une étape de stress aigu. Et vraiment avec tout notre organisme qui est vraiment comme en alerte. Et on voit au loin la vague du tsunami qui arrive et on se dit, ok, si je cours suffisamment vite devant, je ne vais pas être attrapé. Et donc ça met une espèce de tension intérieure. Et une tension qui est parfois vécue comme quelque chose de très bénéfique parce que on tient bien, véritablement. Alors même qu'il y a des moments où il y a des explosions, où on s'écroule complètement en disant « mais c'est pas possible, mon petit mort ». Mais il y a quelque chose quand même qui, pendant les premiers mois, on s'étonne de garder une espèce de force, voire de puissance. C'est comme s'il y avait un ventilateur qui tournait et que l'électricité, c'est l'énergie de la relation. Ben, on arrête l'électricité, donc la relation s'arrête par le décès du petit. Ben, le ventilateur, il continue à tourner. Et donc, on continue pendant les premiers mois après le décès à être sur la lancée de la relation. Et donc, on ressent moins l'arrêt du ventilateur, savoir la réalité de cette absence-là. Dans cette deuxième phase, c'est aussi la recherche. C'est « j'ai perdu dans le monde mon petit, je veux le retrouver dans le monde ». Et donc, je vais rechercher partout dans le monde les photos, les pulls, les jouets, les odeurs, le doudou que je garde dans mon sac. Si on a des vidéos, si on a des enregistrements audio, se les passer, même si parfois c'est super compliqué de voir une vidéo tellement c'est intense. Mais en tout cas, parler du petit, aller dans les lieux, aller tous les jours au cimetière, ça c'est vraiment des choses qui font exister beaucoup la relation à l'extérieur. Ce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure en parlant du processus de deuil, on peut le définir aussi comme le fait de passer d'une relation extérieure, qui est déterminée par les sens, ce que je vois de toi, ce que j'entends de toi, ce que je goûte de toi. Enfin, c'est, tu existes clairement dans le monde et je sais que tu existes par tous mes sens. Okay. Par le décès de la personne, le processus de deuil a pour fonction de mettre à l'intérieur de soi, on dit introjecter en soi cette personne-là, et c'est surtout l'essence de cette personne, la présence de cette personne, mais qui, au fil des années, va être beaucoup moins véhiculée par ce qu'on voit, ce qu'on entend et tout. C'est l'essence de la personne qui peut donner l'impression de la perdre un petit peu, mais alors qu'en fait, on se la restitue complètement en soi. Donc, c'est ça qu'on cherche dans la deuxième étape, garder le lien à l'extérieur. Et puis, survient la troisième étape, et il y a une charnière qui est extrêmement importante à connaître.
Juste, est-ce que je peux vous interrompre, oui. Christophe, sur cette deuxième étape? Parce que du coup, moi, les parents en deuil que j'accompagne, ils me disent « Ah mais on me dit, il faut... Pourquoi je garde la chambre de mon enfant? Pourquoi je garde son doudou? Pourquoi je garde ses affaires? Mais non, il
parce
faut ranger tout ça. »
Parce qu'on en a besoin. Parce qu'on en a besoin et que ça obéit instinctivement. On sait qu'il est approprié de garder les choses. Ça n'a rien de morbide. Absolument.
Mais l'entourage peut percevoir ça comme très morbide.
L'entourage, il n'est pas au courant. Il ne sait pas que c'est un processus naturel. Des parents, parfois, ils mettent 2 ans avant ou 3 ans avant de s'occuper de la chambre. Et c'est complètement naturel. Il n'y a rien de morbide. Pourquoi ? Parce que tous les objets, toute la chambre, tous les cahiers, tous les vêtements, ça sert de relais entre la présence et l'absence. L'enfant est plus là, il y a sa présence qui continue à être là à travers ses objets. Alors on pourrait voir ça comme malsain si on ne connaît pas le processus de deuil, alors que c'est complètement naturel. Et de toute façon, même si l'entourage dit fais-le, on ne le fait pas. Parce qu'on sent bien que c'est quelque chose qui est... Après, ça pose peut-être éventuellement problème si ça dure. Si jamais on touche à cette chambre, ça veut dire que peut-être quelque chose a du mal à se faire. Je ne dis pas bloqué, je ne dis pas être chronique parce que c'est rarissime ces choses-là. Mais on a peut-être besoin d'être aidé par l'entourage disant si tu veux, on peut bouger un objet ou tu peux peut-être amener ton ordinateur dans la chambre et en faire un bureau. Voilà, mais au bout du compte, les objets de la personne, tout son environnement, tant qu'ils peuvent rester dans notre environnement, tant que ça ne vient pas interférer de façon majeure avec son propre fonctionnement à soi ou le fonctionnement de la famille, et que ça s'intègre harmonieusement, j'insiste, harmonieusement dans la vie de la maison, de la vie de la famille, pourquoi pas ?
Ça m'évoquait vraiment la question de l'espace transitionnel.
Exactement.
Comme on peut le penser pour un enfant, avec son doudou qui l'emmène.
Exactement.
D'un espace qui prépare peut-être à une séparation.
Oui.
Ou une transformation.
Ou un autre mode d'être avec l'enfant, qui au début, on a besoin d'être en lien avec lui par ses objets. Puis on se rend compte au fur et à mesure que le processus de deuil se déploie, que c'est moins nécessaire l'extérieur, parce qu'il y a quelque chose de très intime intérieur qui se construit. On ne se représente pas vraiment ce que c'est tant qu'on ne l'a pas pas vécu, mais au fil des années, il se dit « Ah, c'est ça qu'il voulait dire, c'est ça qu'il voulait dire ». Donc, transition entre deuxième et troisième étape, qui est vraiment troisième étape, déstructuration, c'est compliqué. Parce que autant on a l'impression qu'on pouvait tenir, qu'on tient, hein, et le ventilateur continue à tourner, même s'il n'y a plus d'électricité, à un moment donné, il ralentit et s'arrête. Et là, il y a une espèce de petit décrochement entre 6, 7, 8, 10 mois, tout dépend des circonstances. Mais on a l'impression qu'on va un peu moins bien. Ce n'est pas un effondrement, d'accord, on est d'accord. Hein, ce n'est pas un effondrement, ce n'est pas un décrochage, on tombe de la falaise. Non, on va de moins en moins bien. Et on a l'impression de perdre encore plus son enfant. Ce qui est normal, il n'y a pas de nouvelles photos, il n'y a pas de nouveaux événements, il n'y a pas de nouveaux touchés, il n'y a plus de bisous, il n'y a plus de... Voilà, il n'y a plus rien qui est là. Et donc, progressivement, tout ce lien extérieur qui était nourri par les sens, les touchés, la voix, les échanges et tout, commence à diminuer. Donc, on a l'impression de perdre quelque chose de son enfant, l'éclat dans son regard, le son particulier de sa voix. Il y a beaucoup moins de proches qui sont là et qui soutiennent, donc on se sent beaucoup plus seul. Et le processus d'intégration de l'enfant n'est pas encore fait. Donc c'est quoi la résultante? On a l'impression de le perdre un peu une deuxième fois, qu'il est loin, qu'il s'éloigne. On a l'impression, alors le mot oublié est utilisé, mais c'est pas le mot, on n'oublie absolument pas, mais dans la bouche des parents, c'est ça, c'est j'ai l'impression de l'oublier. J'ai l'impression de ne plus être en lien avec lui. J'ai l'impression de le perdre à nouveau. C'est complètement normal à cette étape du deuil. C'est complètement normal. Les gens se disent, mais qu'est-ce que je devrais faire que je ne fais pas pour ne pas ressentir ça? Non, non, c'est le processus de deuil. C'est pour ça, Mathilde, combien c'est important de connaître le processus, parce qu'on est un peu dérouté. Ça fait 6, 7, 8 mois que ça va. On arrive plus ou moins, c'est terrible dedans. Mais là, on se rend compte qu'il y a un fléchissement intérieur et on se sent tellement plus seul intérieurement.
Mais parce qu'il y a aussi beaucoup cette idée de, avec le temps, ça va de mieux en mieux.
Non, c'est faux. Là, et là, ça va à l'encontre. Avec le temps, on me raconte ça, mais ça va pas de mieux en mieux, ça va de pire en pire. Je me sens encore plus mal, je me sens encore plus seul. Le manque est encore plus fort. Et si on n'est pas au courant du processus de deuil, ben on panique. On se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire une dépression, parce que on entre dans la troisième étape qui a une tonalité dépressive. Mais tonalité dépressive, pas dépression maladie qui mériterait des antidépresseurs. C'est ce qu'on appelle, je l'appelle plutôt le vécu dépressif, qui est un temps, une tonalité émotionnelle normale de cette troisième étape que j'appelle de déstructuration. Déstructuration, pourquoi? Parce que vraiment on se rend compte que le réel est là. Hein, qui a véritablement une empreinte réelle de l'absence de mon petit, il reviendra plus, en fait. Mais vraiment,
il y a une prise de conscience intime de cette réalité.
Et c'est là où, progressivement, on se réassocie. Hein, la dissociation salvatrice, protectrice, au début, au fil du temps, on se réassocie et la réalité est là, crue, âpre, violente devant soi, et on a l'impression d'être beaucoup plus vulnérable. Et ça inaugure une période, donc sa troisième étape, qui pour moi, c'est le temps le plus difficile du deuil. C'est pas au début, hein, Mathilde, c'est pas au début, et pas les premiers mois. Au début, c'est comme une sirène stridente qui hurle aux oreilles. Et là, au fil des mois, dans cette troisième étape, c'est plus un bruit de fond lancinant, où on a l'impression qu'on voit les autres. Parce que parfois, on a peut-être repris son travail, hein. On a pris son activité, je veux dire, on arrive à refonctionner, et puis les gens disent ça va, et puis on dit ouais, ça va. Alors qu'à l'intérieur, on a l'impression d'être complètement à l'ouest, complètement perdu. Et on dit, mais comment ils font les gens pour fonctionner? Mais j'ai un double visage, je montre aux gens, ça va, oui, oui, ça va, enfin, ça pourrait aller mieux. Et puis à l'intérieur, on rentre à la maison, on s'effondre en regardant les photos de son petit. Et on se dit, mais je suis à côté, là. J'ai une vie à côté, et personne ne peut comprendre ce que je suis en train de vivre. Je suis complètement en décalé, c'est un extraterrestre par rapport aux autres. J'ai perdu le mode d'emploi d'une vie normale. Il en est vraiment, vraiment perdu, vraiment paumé, j'allais dire. Hein. Et ça, ce n'est pas quelques mois, hein. c'est vraiment longtemps, avec ce fonctionnement à deux niveaux, un fonctionnement de ce qu'on montre au monde, aux gens, aux collègues, à la famille et tout. Et puis, on pourrait se dire, ok, bah heureusement, il y a mon conjoint qui est là, sauf que. Imaginez, vous êtes une sphère, une boule, hein, la maman. Le processus de deuil, il va vous ramener au cœur du cœur de vous-même, à l'intérieur de la boule, émotionnellement. Vraiment, il y a une dimension où on va au cœur du cœur de soi-même. Mais le compagnon, la compagne, également une sphère, va aller aussi au cœur de soi-même. Hein, c'est naturel. Hein. Si vous mettez ces deux boules collées l'une contre l'autre, comme on a l'impression d'être en soutien l'un avec l'autre présent, eh bien, le centre de chaque boule est distant. Vous prenez deux boules de pétanque, vous prenez le centre de la première boule, le centre de la deuxième boule, il y a toujours un espace incompressible. Et donc, ça fait quoi? Ça fait un feeling que mon compagnon, ma compagne est très proche de moi, on vit la même chose, la même souffrance, et je le sens loin, ou je la sens loin. Mais c'est normal, parce que je ne peux pas aller au cœur du cœur de l'intimité profonde de son être, et il ou elle ne peut pas aller au cœur profond d'intimité de mon être à moi. Donc, n'ayez pas peur si vous avez l'impression que même votre compagnon ou votre compagne est loin à ce moment-là, pendant cette troisième étape, parce que, un, ce n'est pas le cas, et deux, c'est le reflet de la dimension naturelle du processus de deuil qui ramène une partie de vous-même au cœur de vous-même, où personne peut vous rejoindre. Mais en même temps, ce cœur de vous-même, c'est là où va se redistiller le lien intime avec votre petit. C'est un lieu sacré où vraiment dans cette solitude de l'âme, du cœur, se construit le lien avec son petit. Donc c'est un lieu qui est précieux, mais là encore, hein, si on ne le sait pas, on est très dérouté, on a l'impression que son compagnon, c'est une erreur de casting, en disant, mais il devrait être là, ou elle devrait être là. Et en fait, non, tout va bien, tout va bien. Donc cette troisième étape, c'est un peu ardos quand même. C'est vraiment compliqué et c'est pas juste sur quelques mois, c'est plusieurs années. On a l'impression, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est une tonalité de vécu dépressif. Il y a culpabilité qui peut être là, il peut y avoir de la colère, mais surtout une énorme tristesse, un épuisement. C'est important à voir. Hein. Le deuil, on pense que c'est d'abord de la peine. Ben non, le deuil c'est d'abord de l'épuisement physique et psychique. Donc là, on parlait de est-ce qu'on peut faire des choses pour prendre soin de soi. On en parlera peut-être dans un autre moment. Mais c'est vraiment, il ne faut pas s'étonner de vivre un épuisement physique. Et les gens se disent, mais j'ai un problème, j'ai une maladie. Non, c'est intrinsèque au processus de deuil parce que dès que vous vous réveillez le matin, ça fait comme s'il y avait une saisie sur salaire de vos 100% d'énergie du matin et que 80% est pris d'emblée saisi sur salaire par votre être pour nourrir le processus de deuil et de cicatrisation. Et il vous reste 20% pour toute la journée. Et évidemment qu'on est épuisé, donc c'est vraiment un temps de prendre soin de soi, être conscient de ça et comment je peux prendre soin de ce corps épuisé. Et cette troisième étape, on avance à marche forcée un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on est au fond du trou tout le temps. Hein. Ça évolue de façon... Je vais mieux, je vais moins bien. Le fond, c'est on est plombé, vraiment. Il y a beaucoup de choses en termes de perte de sens, de qu'est-ce que je vis, pourquoi j'ai vécu ça. Et c'est souvent là où c'est utile d'avoir un espace de parole. Hein, pour vraiment... Autant les premiers temps, c'est tellement aigu qu'on est très speed et tout. Là, vraiment, c'est 7 ans, peut-être après un an et demi, on est vraiment... On dit, j'ai besoin de me poser. Plein de gens qui ne consultent pas prennent le temps d'écrire. C'est un temps d'intériorité, c'est un temps de réflexion, c'est un temps de vraiment convalescence. On est fragile, hein. On est vulnérable, pas fragile, on est vulnérable. Et ce temps de vulnérabilité, il faut aussi le signifier à ses proches, qui disent après 2 ans, « Oh ben, comment tu vas ? Ben, ça va, 2 ans, t'as l'air d'aller. Oui, ok, je pars en vacances. Tu m'as entendu rire au restaurant avec les enfants. » Mais intrinsèquement, il y a un chemin en moi qui est encore une plaie béante. Hein, je souffre encore. Donc vraiment, mes amis, ma famille et tout, vous y trompez pas. Je monte du mieux que je peux. Et d'ailleurs, des mamans peuvent tomber enceintes à cette période-là, hein, où on est dans la joie d'accueillir son petit, un nouveau petit qu'il a dans son ventre, puis en même temps, la conscience d'un processus de deuil. Hein. Le cœur, il est immense, il peut accueillir ces deux mouvements en même temps. J'ai accompagné depuis plusieurs décennies des parents, et non, il faut juste lui dire, tu sais, moi, puis je pleure, mais c'est pas en lien avec toi, on parle à son petit. T'as une grande sœur ou une grande frère que tu connaîtras pas, et ça fait pas longtemps qu'il est mort ou qu'elle est morte, et je suis encore dans la peine, mais je suis tellement content de t'accueillir, mais des fois, m'en veux pas, des fois, je suis plus dans la peine que dans la joie. Voilà, ce dialogue-là, parfois aidé par des proches, des amis avec qui on peut parler, éventuellement un psy, mais pas forcément, ou même dans des groupes de parole, de parents en deuil, ça aide à dire, ok, je vais pas condamner mon enfant, faut assez se rassurer, ça se passe bien.
Oui, et puis là, vous, en filigrane, vous nous dites bien qu'il y a plein de fausses idées sur, justement, le fait d'avoir un autre enfant après, ou pendant longtemps, on a pu entendre que ça bloquait le processus
moi,
de deuil, qu'il fallait
début.
Attendre d'avoir fait son deuil.
Il y a 20
deuil.
Ans, c'est ce qu'on m'a appris, hein. C'est ce qu'on m'a appris. Maintenant, je dis, mais pas du tout, pas une seule seconde. Et même, je ne dis pas qu'il faut absolument faire un petit après, mais comme j'accompagne beaucoup de parents qui ont perdu des tout-petits à la naissance et qui ont vécu peut-être pendant 7 jours en réa, en réanimation à Necker, par exemple, parce qu'il y avait une pathologie cardiaque ou quelque chose de ça, et que le petit est décédé, eh bien, très souvent, assez rapidement, j'évoque avec eux leur souhait ou pas d'avoir un autre enfant. Et très souvent, c'est des jeunes parents qui ont envie de ça. Donc, c'est vraiment très sain. Et le constat, au bout du compte, que être enceinte ou perspective d'être papa, ça aide dans le processus de deuil. Et il n'y a pas du tout cette idée. Avant, on disait, oui, il va y avoir un enfant de remplacement. Il ne va pas exister par lui-même. Oui, c'est possible, mais c'est rarissime. Ça dit plutôt qu'il y a un problème chez le parent qui n'est pas forcément lié au deuil, mais qui est lié à sa structure de personnalité, qu'il faut peut-être travailler plus en psychothérapie. Mais dans l'immense majorité des cas que j'ai accompagnés, c'était aidant. Le seul petit truc que je recommande, c'est que...
Les dates,
ouais. Ce serait quand même bien de ne pas faire un bébé 3 mois après le décès de son petit. Parce que 3 mois plus 9 mois, boum, 12 mois, 1 an. Et il y a des petits qui s'arrangent pour naître le jour de la date anniversaire du décès.
C'est assez fréquent, moi j'observe beaucoup ça.
Et on se dit, bon voilà, c'est pas... Parfois certaines maternités ou centres hospitaliers sont assez conscients de ça, disent bon on va peut-être déclencher un peu avant, ou pour soit peut-être pas forcément le même jour, ce sera, hein, mais peut-être pas forcément le même mois non plus. Hein, donc je dis aux parents, ok vous faites des câlins pour faire un petit, mais peut-être pas 3 mois, vous attendez juste un petit mois, mais c'est pas grave après. Mais c'est
mettre un peu de distance par rapport à des dates qui peuvent être douloureuses.
Distance, mais intrinsèquement, c'est hyper bénéfique. J'ai tout de suite une pensée pour les parents qui peuvent pas, qui écoutent ce qu'on est en train de dire là, et qui peuvent pas avoir un autre enfant, parce que on peut avoir un jeune adolescent de 14 ans qui se suicide, et soi-même, on a peut-être parfois 45 ans ou 50 ans, et on peut plus avoir d'enfant, et peut-être que c'est son enfant unique, donc il y a vraiment une pensée toute particulière pour les papas, les mamans qui perdent leur enfant, qui ne peuvent pas avoir d'autres enfants. Ça aussi, hein, ça survient pendant cette troisième étape. Vraiment une espèce, je dirais pas de deuil supplémentaire, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a le deuil de mon enfant et le deuil d'une projection via mon enfant, de moi, qui peut être une souffrance un peu spécifique, qui demande peut-être à être accompagnée. C'est quel sens je donne à ma vie quand il n'y a plus d'enfant du tout. Et c'est important d'en parler, parce que sinon on se réjouit trop en disant « oui, on peut faire d'autres enfants après ». Non, des fois on ne peut pas, pour pas que des personnes qui nous entendent se sentent très injustement blessées par ce qu'on dit. Donc, ça, au fil du temps, il y a cette quatrième et dernière étape, restructuration. Alors elle, on ne sait pas trop où elle démarre, où elle commence, mais c'est par petites touches. Mais progressivement, on sent qu'il y a quelque chose intérieurement qui s'apaise en soi, au fil du temps, des années, on est d'accord, hein, on parle d'années, et que progressivement, il y a quelque chose qui trouve sa place, et on se rend compte que la douleur est toujours présente, hein, il y a toujours le manque, est toujours présent, c'est vraiment, mais que c'est moins intense, ça prend une autre coloration, et il y a progressivement une modification du lien avec l'enfant qu'on a perdu. On sent que c'est plus à l'intérieur de soi, que c'est plus intime, que c'est moins coupé, que c'est plus relié, comme si on se tissait en même temps avec lui, comme de l'eau est versée dans de l'eau. Hein. On ne sait plus où tu commences, on ne sait plus où je commence, mais t'es là vraiment, avec ce dialogue toujours intérieur, on peut y penser tous les jours, hein, mais quelque chose qui est plus pacifié peut-être au fil du temps. Peut-être une redéfinition aussi de son rapport avec les autres gens. On a réussi à faire la paix avec des gens qui nous racontent combien leur enfant est merveilleux à la crèche, combien maintenant il sait lire, ou combien il va rentrer en grande école, combien c'est super, ma fille va se marier. Voilà, ces choses comme ça. Mais on a réussi progressivement à faire la paix, hein, avec ces choses-là, c'est plus serein. On a aussi appris à dire, vous avez combien d'enfants ? Ah, j'en vois 2, mais non, j'en ai 3. Il y en a deux qui sont dans le monde et un qui nous a quittés il y a 15 ans. J'ai traversé ça et j'ai quand même pu mener mon couple, mener ma vie professionnelle, élever mes autres enfants. J'ai pu traverser ça et c'est vrai que ça me rend un petit peu particulier parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vécu cette expérience-là. Mais on sent qu'il peut y avoir potentiellement, je ne dis pas pour tout le monde, mais quelque chose qui a fait, je mets des guillemets là encore, grandir. Hein. C'est pas qu'on l'a souhaité, hein. On n'a pas souhaité grandir avec la mort de son enfant, on aurait préféré pas du tout grandir et pas du tout perdre son enfant, mais il se trouve qu'on l'a perdu et que peut-être potentiellement le processus de deuil a déposé en soi des enseignements, des choses où on se dit objectivement, j'ai un regard sur le monde qui est peut-être plus intelligent, une intelligence relationnelle qui est autre, je suis peut-être plus capable d'avoir les mots justes pour quelqu'un qui souffre, ou même je suis peut-être plus capable d'aider une maman qui perd son petit ou qui, tous les gens qui se plaignent parce qu'il y a un orteil retourné ou les gens qui se plaignent pour des broutilles, et bah, on se dit bon, ok, allez, on va peut-être passer son chemin. Voilà, grosso modo, j'ai mis longtemps.
C'est un processus, mais c'est important.
Mais c'est important, vous voyez, c'est un processus. Donc vraiment, on voit bien qu'il a besoin d'être accompagné d'abord par soi et aussi par un entourage aimant et compréhensif. Combien on a besoin d'enseigner les choses, combien pour soi on a besoin de connaître quelles sont ces phases et comment elles se déroulent dans le temps. Et que, je répète encore et encore, qu'on a là un processus intelligent qui prend soin de nous et à quel on peut s'abandonner même qu'on ne sait plus du tout comment on s'appelle et qu'on est complètement perdu. C'est, on va dans la forêt, on va au bord de la mer et puis on est là et dit oh, je ne sais plus. Mais je m'abandonne à ce qui se passe et on rejoint comme ça le flot de milliards de papas et de mamans qui depuis la nuit des temps ont perdu des petits. On se relie à ça. Ils y sont arrivés. Je vais y arriver. Je sais pas comment ils ont fait. Et les gens disent, ah, t'es fort. Mais non, arrêtez, dis que je suis fort. Je sais pas comment je fais, mais je fais. D'accord? Donc arrêtez de me dire que je suis fort. Je fais, je sais pas comment je fais, mais il y a quelque chose en moi qui sait faire.
Dans ces différentes phases, Christophe, vous nous parliez de la fatigue, de l'épuisement d'un point de vue biologique. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on entend peu et auquel on est peu attentif. Ça me semble très important. Est-ce qu'il y a d'autres impacts sur la santé des parents?
Alors, d'autres impacts sur la santé, plutôt qu'il y ait quelque chose de préexistant. Hein. Comme il y a une certaine vulnérabilité, tant émotionnelle que physique, tout ce qui est déjà existant a tendance un peu plus à se manifester. On a par exemple des problèmes cardiovasculaires, hein, mais c'est plutôt pour des conjoints, parce que les jeunes parents n'ont pas forcément ça. Préexistants, des troubles du rythme, insuffisance coronarienne, choses comme ça, hypertension, ça a plus tendance à parler. En fait, c'est juste lié au contexte de stress. Quand on a parfois des problèmes articulaires, de douleurs de dos, cervicales et tout, curieusement, on a plus mal. C'est lié aussi au fait qu'on bouge moins, c'est lié au fait qu'il y a une inflammation globale de l'organisme, il y a toutes ces choses-là. Il peut y avoir des problèmes de cutanés si on est sujet au psoriasis ou urticaire, des choses comme ça. Mais quand même, dans l'immense majorité des cas, il n'y a rien de majeur qui se passe. Mais si on a un doute, il faut évidemment aller voir son médecin. Puis si on a le moindre doute, ben on va consulter...
Et là, je pense, parce que c'est ce que je peux rencontrer, moi, des parents qui ont déjà des vulnérabilités psychiques,
exactement,
qui présentent déjà dépression ou d'autres troubles.
Oui.
Est-ce que là, il y a une attention particulière à porter?
Il y a une attention particulière, mais étonnamment, c'est pas aussi catastrophique. C'est pas un effondrement. Je sais pas si vous avez remarqué ça aussi, Mathilde, dans votre pratique. C'est un élément à prendre en compte, mais ça va venir peut-être influencer, parasiter un petit peu le processus. J'ai un patient qui est schizophrène, sa maman est décédée, et moi je pensais, mon Dieu, comment, dans quel état il va être, parce qu'il était entièrement dépendant de sa maman, entièrement incapable de vivre au quotidien sans sa maman, et moi je m'attendais à une décompensation, quelque chose d'assez grave. Sa maman est décédée, il se débrouille super bien, il a pris en autonomie, bon, il est accompagné vraiment remarquablement bien par sa famille, sa sœur, ses neveux et tout. Il trouve en lui quelque chose qu'il ignorait, hein, et qui a une capacité à amortir la violence. Et curieusement, ce réel est tellement fort dans le décès de sa maman. Hein, la schizophrénie, c'est parfois une difficulté à appréhender le réel. Mais le réel est tellement fort par le décès de sa maman que pendant quelques mois, il était beaucoup mieux au niveau de sa pathologie psychotique parce qu'il était happé dans ce réel. Et donc, voilà, on aurait pu croire que ça allait être plus fragile. Ben non, il n'était pas plus fragile. Donc, il y a vraiment... soyez pas trop trop inquiet. Hein.
Dans le vécu des parents, en deuil, il y a plein de pertes possibles, ou en tout cas la question de l'âge de l'enfant, des circonstances de son décès.
Oui.
Est-ce qu'il y a des spécificités, voilà, s'il s'agit d'un petit, alors en dehors de la période périnatale, ou d'un adolescent?
On ne va pas être exhaustif, après quelques exemples, parce que c'est vraiment un énorme terrain. Un petit qui décède après 7 jours de vie, les parents vont revenir sur cette vie non vécue. Toutes les opportunités non vécues, tout ce gâchis d'une vie qui pouvait être vécue et qui ne sera pas vécue, plein de joies, plein de choses qui ne vont pas être connues. Aussi la souffrance que peu de gens le connaissent. Hein, il est peut-être né, il est peut-être parce qu'il est en réanimation, il y est décédé. Personne ne le connaît, que les parents. Il y a peut-être éventuellement les frères et sœurs, éventuellement les grands-parents ou des oncles et tantes qui sont venus, mais tout l'entourage social n'est pas au courant. Donc c'est compliqué de cheminer dans un deuil et de voir la reconnaissance de cela, parce qu'il y a reconnaissance, il y a eu connaissance. Et l'entourage parfois ne connaît pas l'enfant et a tendance à, je me dis qu'il m'est oublié qu'il y a eu un enfant qui a eu vécu 7 jours, et pour eux, ce n'est pas aussi profond, ce n'est pas aussi important. Donc voilà, le fait que l'enfant n'ait pas été connu, ça peut jouer.
Est-ce que c'est la particularité aussi de perdre un enfant petit en bas âge, là je pense 3-4 ans, où finalement il y a quand même 3-4 ans de vécu, de souvenirs, mais que, si on perd un enfant qui a 15 ans, il y a encore plus de
souvenirs, plus de vécu,
finalement le processus va pouvoir s'appuyer.
Exactement, il y a plus de vécu, il y a plus d'expérience, il y a plus d'incompréhension aussi, hein, parce que c'est par exemple un jeune garçon qui s'est suicidé, on a pendant 15 ans vu peut-être qu'il y avait du tourment en lui, et donc après toute la culpabilité qui peut se rajouter par rapport à ça, ou si c'est un accident, c'est vraiment le mort de l'adolescent, c'est effectivement tout ce qu'on a pu commencer à tisser comme lien, tout ce qui préfigurait le lien d'adulte à adulte qui était en train de se dessiner quand on se projetait dans l'avenir. Et c'est là encore toute cette vie non vécue et toutes ces promesses qui ne pourront pas être tenues. Donc c'est vraiment hors situation de guerre ou hors situation de torture et tout. Je pense que c'est vraiment l'événement, un des événements les plus traumatiques. Je ne dis pas qu'il y a une hiérarchie dans la souffrance du deuil, mais quand même, perdre son petit, c'est d'une violence qui est très différente de celle de perdre son conjoint. Et je ne les compare pas, mais ça va toucher tellement des choses différentes du profond de son être.
Est-ce que aussi les circonstances de cette perte peuvent être davantage traumatiques?
Mais bien sûr. Alors, je travaille beaucoup avec des parents qui ont perdu un enfant par suicide. Vraiment, le suicide, j'ai écrit un bouquin aussi après le suicide d'un proche, qui vraiment pointe combien ce deuil est vraiment, vraiment spécifique. Il y a mille circonstances, si c'est un cancer diagnostiqué trop tard, ou si c'est une greffe de moelle qui a marché après des récidives. Enfin, il me serait compliqué d'aborder tous les chemins, parce que au bout du compte, même si le processus de cicatrisation est le même, le processus de deuil est le même, il y a tellement de paramètres qui viennent donner une coloration unique, spécifique à ce deuil-là, que vraiment...
Vous nous disiez tout à l'heure, voilà, que le manque reste toujours, mais que à la fin de ce processus, il y a une possibilité.
Enfin, il n'y a pas de fin de processus.
Alors, en tout cas, au bout d'un moment, il y a une forme d'apprivoisement de ce manque, d'intégration en soi, de la relation avec son enfant perdu. Souvent,
un exemple par rapport à ça, concrètement, que les gens se représentent ça. Je pense à une personne, on va l'appeler Stéphanie, qui a perdu son petit, qu'elle a trouvé morte dans son lit, ce petit garçon de 6 ans, avec une hémorragie cérébrale liée à une malformation dans son cerveau, et c'était indétectable, elle le retrouve décédé. Et c'est maintenant il y a 7 ans. Et là, elle peut me dire, parce qu'on se voit très très ponctuellement, enfin, des fois c'est juste des petites visites une fois par an pour dire coucou, comment ça va, et elle me dit, je peux le dire maintenant. Je suis apaisé. Mon petit est toujours en moi, j'y pense tous les jours, mais je sais intrinsèquement que je suis apaisé. Et je peux le dire à moi-même et aux autres. C'est ça la quatrième étape. Mais il me manque cruellement tous les jours. Mais en même temps. C'est vraiment ça, cette tonalité-là. Et c'est une maman dont le petit garçon avait été tué par le père, et le père s'est suicidé par la suite. Eh bien, elle me dit, OK, après tout ce cheminement, 6-7 ans après, je peux dire non, j'ai fait la paix maintenant, je suis vraiment... Et je sais que je suis en paix, c'est pas un discours, c'est pas une posture.
C'est pas
une façade. Je sais que je suis en paix, même si cette blessure est toujours en moi, même s'il me manque effroyablement tout le temps, je sais que je peux continuer à avancer.
Merci beaucoup Christophe pour tous vos éclairages. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous retrouvons la semaine prochaine dans la deuxième partie de cet épisode, dans laquelle nous aborderons à nouveau avec Christophe la question de l'accompagnement des parents en deuil, comment vivre après, quel peut être le chemin de reconstruction, la place et le rôle des proches, la famille, les amis, et puis la question de toutes les ressources qui sont à disposition des parents en deuil et des personnes qui les accompagnent. Merci, à la semaine prochaine. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.